Chapitre 45. Callahan eut le cœur brisé par les tourments que ces hommes imposaient à Richard. Au moment où il semblait avoir compris ce qu'il fallait faire et pourquoi il fallait le faire, voilà qu'il retombait dans leur cécité volontaire. Le sourcier paraissait avoir oublié les bandes Dakar. Immobile, il regardait le socle de la statue à l'endroit où la balise avait explosé en 1000 morceaux. Callahan s'approcha de lui et souffla. Qu'est-ce qui veut dire autre chose? De quoi parles-tu?
La traduction.
Richard continua à fixer la statue de Kajarang.
Tu te souviens de ce que je t'ai dit au sujet de la syntaxe?
Oui.
Elle n'était pas bizarre, c'est moi qui ai tout compris de travers. Je voulais que le texte dise ce que je pensais qu'il disait. Au lieu de me fier à ce que je voyais, j'ai extrapolé à partir d'une idée toute faite. Du coup, j'ai fait un énorme contresens.
Le sourcier se perdit de nouveau dans ses pensées. Callahan lui prit le bras pour le ramener au présent.
Quel contresens?
Richard désigna la statue.
J'ai mal interprété la syntaxe. Tu te souviens que j'avais des doutes sur ma traduction? Eh bien, j'avais rudement raison. Le texte ne dit pas « car il abrite des démons, ceux qui ne peuvent pas voir ».
Mais alors, pas du tout. Tu en es sûr?
Demanda Jensen.
Certain à présent,
répondit Richard, les yeux rivés sur la statue. Callahan le tira par le bras pour qu'il la regarde.
Alors, que dit-il ce texte?
Richard posa brièvement les yeux sur sa femme, puis il les tourna de nouveau vers la statue de Kajarang, cette sentinelle qui surveillait en permanence la cuvette des piliers de la création. Sans répondre, le sourcier avança vers le monument. Callahan lui emboîta le pas. Kara suivit le mouvement, tout comme Jensen qui saisit au passage la longe de Betty. Les Bandakar s'écartèrent pour dégager le chemin au seigneur Ral. Au passage, ils jetèrent des regards soupçonnés à Jensen et à sa chèvre. Tom resta où il était, histoire de pouvoir surveiller tout ce petit monde. Arrivé devant la statue, Richard balaya la neige pour dévoiler de nouveau l'inscription rédigée en haut d'Aran. Callahan vit qu'il la relisait lentement. À l'attention qu'elle devinait en lui, elle comprit qu'il était sur le point de faire une découverte majeure. Elle sentit que la migraine, pour le moment, ne torturait plus son mari. Elle ne comprenait pas pourquoi ses maux de tête apparaissaient et disparaissaient, mais savoir qu'il le laissait en paix pour le moment était un grand soulagement. Les mains posées sur le granit, le corps incliné vers l'avant, Richard lisait et relisait l'inscription.
Quelque chose m'échappait depuis le début. Maintenant, je sais de quoi il s'agissait.
La dernière partie de la phrase ne dit pas « car il abrite des démons, ceux qui ne peuvent pas voir ».
Vraiment ?
Fit Jensen.
Ce n'est pas une allusion au trou dans le monde ?
Bien sûr que si, mais pas celle que je croyais.
Richard tapota quelques lettres du bout d'un index.
C'est là que j'ai commis l'erreur. La bonne traduction est « car il abrite ceux qui ne peuvent pas voir les démons ».
Ceux qui ne peuvent pas voir les démons ?
Répéta Callahan perplexe. Richard leva son bras bandé vers le noble visage de Kajarang.
C'est ça qu'il redoutait le plus. Pas les gens incapables de voir la magie, mais ceux qui ne savent pas reconnaître le mal. C'était un avertissement à l'attention du monde.
Richard désigna les Bandakar dans son dos.
Au sujet de ces hommes, par exemple.
Callahan ne parut pas totalement convaincu.
Tu veux dire que leur incapacité à voir la magie les empêche d'identifier le mal? Ou qu'ils sont incapables d'en concevoir l'existence? Un peu comme lorsqu'ils ne parviennent pas à faire la différence entre le mysticisme et les manifestations concrètes du don?
C'est ce que devait penser Kajarang, dit Richard. Mais je ne partage pas son opinion.
Et tu es sûr d'avoir raison?
Demanda Jensen.
Absolument.
Avant que Callahan ait pu poser cette question, Richard se tourna vers les Bandakar.
Kajarang a laissé un avertissement gravé dans le granit, au sujet des gens qui ne peuvent pas voir les démons. Vos ancêtres ont été chassés du Nouveau Monde parce qu'ils étaient étrangers aux dons. Kajarang les redoutait à cause d'autre chose, leur philosophie, et en particulier leur refus de reconnaître l'existence du mal. Aux yeux des habitants de l'Ancien Monde, c'est ça qui rendait vos ancêtres si dangereux. Mais pourquoi ont-ils développé cette philosophie ?
Demanda un des résistants.
Une fois bannis dans l'ancien monde, vos ancêtres ont dû se raccrocher désespérément les uns aux autres. En réaction à ce qu'on leur avait infligé, ils ont nié jusqu'à la possibilité de devoir rejeter l'un des leurs à cause de ses actes. Peu à peu, ils ont acquis la conviction qu'il était injuste de condamner qui que ce soit. Afin de ne pas juger, ils ont évacué le concept de mal de leur vision du monde, car un démon, si on le démasque, doit être isolé de la communauté. Conduits à fuir la réalité, ils ont justifié leur aveuglement en imaginant le curieux concept affirmant que rien n'est réel. Ce relativisme les a protégés pendant 3000 ans. Plutôt que de punir les criminels, ils ignoraient les crimes. Face à un problème, ils ont choisi de regarder ailleurs et d'attendre que ça passe. S'ils avaient reconnu l'existence du mal, châtier les criminels serait devenu incontournable et ils auraient dû admettre, par extension, qu'ils avaient été exilés à cause de leurs mauvaises actions. Pour échapper à ce dilemme, ils ont décrété que le mal n'existait pas. Et toute une idéologie a découlé de ce postulat. Kajarang a sans doute fait le lien entre l'insensibilité aux dons et l'impossibilité de voir les démons. À mon avis, il a eu peur que la philosophie des piliers de la création se répande dans l'ancien monde. Réfléchir est difficile et demande de gros efforts. Il est tellement plus facile de croire en des vérités toutes faites et de se gargariser de phrases pompeuses. N'importe qui peut produire un discours vaseux, un infâme blabla puisé aux sources les plus douteuses, qui nie totalement l'indépendance de pensée, pourtant consubstantielle à la condition humaine. Une illusion de sagesse qui économise à des adeptes la peine de tenter de comprendre le monde tel qu'il est. Avec des idées simples, il est aisé d'embrigader les gens, en particulier la jeunesse, car les tirades fumeuses leur donnent l'impression d'appartenir à une élite. Alerté par ces délires à répétition, Kajarang a dû se dire qu'il était temps de faire quelque chose. Les idées absurdes et dangereuses ont une étonnante particularité. Une force de conviction bien supérieure à celle des discours raisonnables et honnêtes. En son temps, Kajarang a mesuré le danger. S'il laissait faire, des sornettes philosophiques risquaient de devenir une sorte de nouvelle religion qui préparait le terrain au mal et laisserait les innocents sans défense, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec l'ordre impérial et les légions de malheureux qu'ils torturent ou massacrent. Kajarang a voulu éviter le triomphe du crétinisme sur l'intelligence ou de la mort sur la vie, ce qui revient à peu près au même. Les piliers de la création, comprit-il, étaient une menace pour l'ancien monde, et il fallait donc prendre des mesures radicales.
Richard tapota le socle là où figuraient d'autres inscriptions.
Ce texte-là décrit brièvement la solution que choisit le sorcier. Pour enrayer l'épidémie, il réunit tous les trous dans le monde, leur adjoignit les adeptes qu'il s'était fait depuis leur arrivée et les bannit dans l'Empire Bandakar. Le premier exil du Nouveau Monde dans l'Ancien était injuste. Le deuxième, au contraire, était inévitable.
Jouant nerveusement avec la longe de Betty, Jensen semblait avoir quelques doutes sur toute cette histoire.
« Admettons pour l'instant que ce deuxième exil ait été justifié, » dit-elle. « Crois-tu vraiment qu'il y ait eu des gens normaux bannis en même temps que les piliers de la création ? Ça devait faire beaucoup de monde, non ? Comment Kajarang s'y est pris ? Si ces gens ont résisté, y a-t-il eu des massacres ?»
Intéressé par les questions pertinentes de Jensen, les Bandakar tendirent l'oreille.
Je doute que le Haut-Daran, même à l'époque, ait été une langue très pratiquée. Mais elle devait déjà être à demi éteinte, son usage étant limité à des cercles très particuliers tels que les sorciers. Kajarang a nommé Bandakar les exilés. Ce mot signifie banni. Mais les principaux intéressés ne devaient pas le savoir. En tout cas, leur empire n'a pas été baptisé pour faire référence au seul pilier de la création. Le texte gravé dans la pierre laisse penser qu'il y a une bonne raison à cela. Tous les exilés n'étaient pas des trous dans le monde. En revanche, tous croyaient dur comme fer à la philosophie hérétique des piliers de la création. Ces gens se croyaient familiers de la lumière à cause de leurs convictions. Kajarang a dû jouer sur leur élitisme. J'imagine qu'il a affirmé vouloir les protéger d'un monde qui n'était pas prêt à accueillir des êtres si raffinés. En d'autres termes, il les a convaincus qu'on les isolait parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Habitués à gober des mensonges, les premiers Bandakars ont dû accueillir avec joie leur bannissement. Si je comprends bien les inscriptions, ils ont accepté l'exode de bon cœur. Et une fois qu'ils furent coupés de tout derrière leurs frontières, le jeu des mariages entre trous dans le monde et personnes normales a très vite éradiqué le don parmi la population. Kadjaran croyait vraiment que ces gens étaient une terrible menace pour les habitants de l'ancien monde ?
Demanda Jensen. Les Bandakars parurent de nouveau très satisfaits qu'elle ait posé cette question. Kalan eut le sentiment que la sœur de Richard se sentait investie du rôle de porte-parole de ses semblables. Richard désigna une fois de plus la statue du sorcier.
« Regardez-le. Que fait-il donc ?»«
Symboliquement, il monte la garde sur ce col et sur la frontière qu'il a érigée. Il est là, éternel et imposant, pour empêcher que quiconque sorte de l'Empire Bandakar. Et pour bien marquer que le danger n'est pas imaginaire, il tient une épée dégainée.
Selon vous, pourquoi les habitants de l'Ancien Monde ont-ils bâti ce monument en hommage à Kadjarang ?
Parce qu'il lui était reconnaissant de les avoir débarrassés d'une menace qui mettait en péril la survie de leur société.
L'enjeu de toute cette affaire n'était pas insignifiant. Prenez-en conscience.
Par-delà la mort, Kadjarang veille sur cette frontière et il m'a envoyé un message pour m'avertir qu'elle n'existait plus.
Richard marqua une pause, attendant que tous les regards soient braqués sur lui. Puis il énonça sa conclusion.
Kadjarang n'a pas banni vos ancêtres parce qu'ils étaient insensibles aux dons, mais parce qu'ils ne pouvaient pas voir les démons.
Mal à l'aise, les Bandakars se regardèrent furtivement.
« Ce que vous appelez un démon,
dit timidement l'un d'eux,
est en réalité un être humain qui exprime sa souffrance intérieure.
« Il a raison,
intervint un autre homme.
Traiter un homme de monstre ou de barbare n'a pas de sens. C'est une manière d'enfoncer un être déjà en difficulté. Si on les réintègre dans la communauté humaine, ces êtres cesseront de redouter les autres et ils renonceront à la violence. »
Richard foudroya du regard les résistants massés devant lui.
Kadjarang avait peur de vous parce que vous êtes dangereux pour tout le monde. Pas à cause de votre insensibilité aux dons, mais parce que votre idéologie est un précieux soutien pour le mal. En tentant d'être bon et altruiste, sans parler de votre refus de juger, vous donnez au mal une puissance phénoménale. Vous refusez de voir les démons et ainsi vous les accueillez parmi vous. Vous facilitez leur existence et vous leur conférez un immense pouvoir sur vous. Vous êtes un peuple complice de la mort qui se voile la face sur ses propres motivations. Face aux légions de démons, vous êtes un empire de vaincus.
Un long silence suivit cette déclaration. Puis un des Bandakars les plus âgés prit la parole.
Croire à l'existence des démons ou du mal est une attitude intolérante et procède d'un raisonnement beaucoup trop simpliste. Bref, c'est une manière de condamner injustement certains individus. Aucun de nous, et même pas vous, Seigneur, n'a le droit de juger les autres.
Kalan savait que Richard était un homme patient. Mais, comme toutes ses autres qualités, celles-là avaient des limites, et elles étaient atteintes. Un moment, la mère inquisitrice eut peur de voir son mari dégainer l'épée de vérité. Mais Richard se contenta de marcher au milieu des hommes en les dévisageant les uns après les autres.
« Vous pensez être au-dessus de la violence et connaître la lumière. Ce sont des fadaises. Un troupeau de moutons attendant des bouchers, voilà ce que vous êtes. Et vos meurtriers sont venus à vous. »
Richard ouvrit la bourse en toile et se campa devant son dernier contradicteur.
« Tends la main !»
Le Bandakar hésita, consulta ses compagnons du regard, puis obéit. Richard prit un petit doigt d'enfant ratatiné et souillé de sang et le posa dans la paume du résistant. L'homme aurait voulu se débarrasser de cette abominable relique, mais le regard glacial du sourcier l'en empêcha. Richard avança et distribua des doigts apparemment au hasard. En réalité, il choisissait ses principaux contradicteurs et ne s'arrêta que lorsque le sac fut vide.
« L'œuvre des démons repose dans vos mains, » déclara-t-il. « Vous savez que je dis la vérité et que le mal sévit dans votre empire. Vous désirez que ça change et qu'on vous laisse vivre afin que vos proches et vos amis cessent de souffrir.
Mais vous aimeriez obtenir tout ça sans devoir regarder la réalité en face. Jusque-là, j'ai essayé de vous faire comprendre les choses et de vous décrire la vraie nature du défi que nous devons relever. Le temps des explications est révolu. Vous vouliez que je vienne chez vous, eh bien me voici. Maintenant, à vous de décider de la suite. Ferez-vous ce qui s'impose ou vous détournerez-vous de la vérité ?
Richard se campa devant les bandakars. Le dos bien droit, le torse bombé, il était l'incarnation même du pouvoir. À ces instants-là, Callan prenait conscience que son mari, l'homme le plus aimant au monde, n'était pas le nouveau seigneur Ral par hasard. Depuis leur rencontre dans ces chers bois de Heartland, Richard avait mis le monde cul par-dessus tête. Dès le début, il avait été au cœur de leur combat et à présent, il dirigeait un empire. Cela dit, et tout comme son don, l'empire en question restait largement un mystère pour lui. Mais il n'avait aucun doute sur la légitimité de sa cause. Richard et Callan s'étaient trouvés dans l'œil du cyclone qui avait dévasté le Nouveau Monde, et maintenant la même catastrophe menaçait les Bandakar. Partout dans le monde, certaines personnes considéraient le sorcier comme leur unique chance de salut. Inlassablement, Richard leur expliquait que chaque individu était maître de son destin. Parce qu'il professait de telles idées, le mari de Callan était détesté par une bonne partie de l'humanité. Au fond, si l'ordre impérial voulait sa tête, c'était davantage à cause de ses idées que de ses actes.
« Voilà comment se présentent les choses, » continua Richard. « Soit vous jurez allégeance à l'Empire d'Aran, soit vous devenez des sujets de l'ordre impérial. Il n'y a pas de troisième voie. Que ça vous plaise ou non, vous devrez choisir. Si vous refusez, les événements s'en chargeront pour vous et vous finirez entre les mains de l'ordre impérial. Et au cas où cette idée ne serait pas encore entrée dans votre crâne, ce sont des mains malfaisantes. Avec l'ordre, si vous n'êtes pas tué, vous deviendrez des esclaves. Vous savez très bien ce que ça implique. » Votre vie n'aura aucune valeur pour vos maîtres, et vous ne serez pas mieux traité que du bétail. Si vous optez pour l'Empire d'Aran, votre existence vous appartiendra. J'espère que vous serez capable de la mener comme d'authentiques individus, pas comme une bande d'insectes dans une fourmilière. La frontière qui protégeait votre empire a disparu. J'ignore comment la rétablir, et même si je le savais, je ne le ferais pas. Désormais, l'Empire Bandakar n'existe plus. Le temps où vous étiez à l'abri derrière la frontière est révolu. Même si on peut chasser l'ordre de votre territoire, rien ne pourra l'empêcher de revenir à l'assaut plus tard. Alors, à vous de choisir. Voulez-vous être des esclaves ou des hommes libres ? Dans les deux cas, vivre ne sera pas facile. Vous imaginez, je suppose, quel est le lot quotidien d'un esclave ? Un homme libre doit lutter, travailler et réfléchir par lui-même, mais les fruits de ses efforts lui reviennent et c'est une grande consolation. Il faut conquérir la liberté. Ensuite, on doit la défendre contre les prédateurs tels que l'ordre impérial. Comme vous le savez, je suis le seigneur Ral, et j'entends bien me procurer l'antidote au poison que vous m'avez administré. Une fois ce problème réglé, et si vous choisissez de combattre, je vous aiderai à sauver vos proches du mal. Si vous optez pour l'ordre, vous pourrez rentrer chez vous et vous laisser égorger comme des agneaux. Vous aurez aussi la possibilité de fuir et de vous cacher, mais je n'ai pas le sentiment que vivre dans les collines, loin de vos familles, vous ait rendu très heureux. Décidez-vous. Si vous vous rangez dans mon camp, sachez qu'il vous faudra renoncer à votre aveuglement et à vos absurdes sophismes. Quand on regarde la réalité en face, on découvre qu'il y a de bonnes et de mauvaises choses dans le monde. Pour distinguer entre les unes et les autres, vous devrez faire appel à votre intelligence. Si vous vous alliez à moi, je ferai tout mon possible pour répondre à vos questions honnêtes et je vous apprendrai à combattre les soudards de l'ordre. Mais je ne tolérerai pas votre stupide philosophie, car elle revient tout simplement à pratiquer en toute occasion la politique de l'autruche. Regardez les doigts ensanglantés que tiennent certains de vos amis. Voyez ce que les bouchers de Jagang font aux enfants. Vous devez haïr ces hommes. Si vous ne le voulez pas ou ne le pouvez pas, il n'y aura pas de place pour vous dans le camp des défenseurs de la vie. Pensez à ces fillettes, à leur terreur, à leur souffrance et à leur désir de ne pas être maltraitées. Imaginez ce qu'elles ont éprouvé, seules entre les mains de ces monstres.
La haine monte en vous? Ne l'étouffez pas, car elle est justifiée. Au contraire, nourrissez-la, car c'est le seul sentiment que méritent les démons.
Je veux trouver l'antidote afin de continuer de vivre. Durant cette quête, je compte tuer autant de bouchers que possible. Si vous me laissez seul, je me procurerai peut-être les 3 flacons, mais je ne réussirai pas à vous libérer de l'ordre impérial. Ensemble, nous aurons une chance d'y parvenir. Ne sachant rien des forces ennemies, je ne peux pas vous garantir la victoire. Mais une chose est sûre, si vous ne m'aidez pas, le combat est perdu d'avance.
Richard leva un index menaçant.
Ne vous abusez pas, surtout. Si vous luttez avec moi, certains d'entre nous mourront. C'est une certitude. Si nous baissons les bras, nous finirons tous par périr. Peut-être pas physiquement, mais notre esprit ne survivra pas, je vous l'assure. Sous un joug comme celui de l'ordre, la notion de bonheur n'existe plus. Si le corps peut résister un temps, car c'est une mécanique solide, l'âme se fane et meurt très rapidement.
Richard se tut et balaya son auditoire du regard. Quelques hommes, honteux, baissèrent les yeux, mais la plupart ne purent pas détourner la tête.
« Si vous choisissez de me soutenir, » reprit Richard, « vous serez tôt ou tard obligé de tuer des soldats de l'ordre. Si vous pensez que j'aime prendre des vies, détrompez-vous. Je déteste tuer. Je m'y résigne quand je ne peux pas faire autrement et je ne vous demanderai jamais d'apprécier les massacres. Un guerrier n'a pas besoin d'aimer ce qu'il fait. Il suffit qu'il vénère la vie et qu'il soit prêt à tout pour la défendre. »
Richard ramassa un des objets que Kara, Callan, Jensen et lui avaient fabriqués en attendant le retour de Tom et d'Owen. On eût dit un simple bâton. En fait, il s'agissait d'une arme taillée dans une branche de chêne. Arrondie à une extrémité afin de pouvoir être bien prise en main, ce bâton devenait plus étroit en son milieu et l'autre extrémité était très pointue.
« Vous n'avez pas d'arme, »
reprit Richard.
« En vous attendant, nous en avons fabriqué, à tout hasard. »
Il fit signe à Tom d'approcher.
« Au premier coup d'œil, les soldats de l'ordre ne verront pas qu'il s'agit d'une arme. S'ils vous questionnent, dites que c'est un outil agricole qui sert à faire des trous dans la terre pour les semailles. »
De la main gauche, Richard prit Tom par l'épaule et fit une démonstration de l'efficacité du bâton. Si on l'enfonçait dans le ventre d'un homme, juste sous ses côtes, en poussant très fort, on lui déchiquetait le cœur et les poumons.
Plusieurs bandakars ne dissimulèrent pas leur répulsion. « C'est l'endroit le plus vulnérable du corps humain, »
commenta Richard.
« Après avoir frappé, donnez un coup de poignet pour briser l'arme à l'endroit où elle est plus étroite. Ainsi, votre victime ne sera pas en mesure de la retirer de la plaie. Et avec un pareil morceau de bois dans le corps, pas un soldat au monde ne poursuivrait son agresseur ou ne continuerait à le combattre. Du coup, vous pourrez fuir facilement. »
« Un bâton pareil ne se cassera pas, » dit un des hommes. « Avec l'humidité naturelle du bois, les fibres plieront, mais ne se briseront pas. »
Richard envoya l'arme à l'homme qui l'attrapa au vol.
« Regarde bien la partie centrale. Tu verras qu'elle a été séchée au-dessus des flammes exactement pour cette raison. Et si tu étudies la pointe, tu constateras qu'elle est fendue en 4. Une fois qu'elle est enfoncée dans le corps d'un ennemi, elle éclot un peu comme un bourgeon. Les dégâts sont plus étendus et si le soldat parvient à tirer quand même l'arme en arrière, il déchiquette ses propres organes. En un sens, chaque coup porté inflige 4 blessures. Un homme ainsi touché ne peut plus se battre parce que les 4 pointes lui font un mal de chien. Même s'il ne meurt pas sur le coup, le type n'a pas une chance de survivre plus de 24 heures. Et son agonie sera un véritable calvaire.
« Je veux que ces bouchers connaissent la souffrance et l'angoisse qu'ils imposent à leurs victimes. »
« Ça donnera à réfléchir aux survivants. Ils en perdront le sommeil, deviendront moins vigilants et nous aurons plus de facilité à les tuer. »
Richard ramassa une autre arme.
« C'est une arbalète de poing. Regardez bien et vous comprendrez comment elle fonctionne. La corde est bloquée en position armée par l'écrou que vous voyez ici. » Le carreau est placé dans la rainure, là, et il suffit de tirer sur ce levier pour débloquer la corde et lâcher le projectile. C'est extrêmement simple.
À courte distance, même des hommes sans expérience comme vous peuvent atteindre une cible presque à tous les coups. J'ai fabriqué le cadre de dizaines d'arbalètes. Avec les équipements que vous apportez, nous les terminerons. Ce sont des armes rudimentaires et à longue portée, et il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Cela dit, elles sont petites et faciles à dissimuler sous un manteau, par exemple. Même face à un géant, le plus faible d'entre vous aura toutes ses chances. Si on tire de près, une cotte de maille ne peut pas arrêter un carreau. Croyez-moi, vous sèmerez la mort et la terreur.
Richard montra aussi au Bandakar des massues en bois qui seraient bientôt hérissées de pointes. Des armes de ce type pouvaient être facilement dissimulées, un point essentiel. Il présenta également une simple corde munie d'une poignée à chaque extrémité. Pour étrangler une sentinelle en l'attaquant par derrière, il n'y avait pas mieux.
Nous nous procurons d'autres armes sur les cadavres de nos adversaires. Des couteaux, des haches, des masses d'armes, des épées.
Seigneur Hall,
dit Owen après avoir consulté du regard ses compagnons.
Même si nous nous rangeons dans votre camp, nous ne sommes pas des guerriers. Les soldats de l'ordre sont des experts. Contre eux, nous n'aurons pas une chance.
D'autres hommes exprimèrent des inquiétudes similaires. Richard leva une main pour les faire taire.
Regardez les doigts de ces fillettes. Quelle chance ont-elles eues contre leurs bourreaux? Et qu'en serait-il de vos mères, de vos femmes, de vos sœurs ou de vos filles? Vous êtes le seul espoir des faibles, et votre seul espoir.
C'est vrai, vous risquez d'être en mauvaise posture face aux soldats. Mais je n'ai pas l'intention de livrer une guerre ouverte, comprenez-le bien. Ce serait courir au suicide.
Richard désigna un des plus jeunes résistants.
Quel est votre but? Pourquoi êtes-vous venu me retrouver?
Le jeune type hésita.
Pour être débarrassé des soldats de l'ordre?
Exactement. Vous voulez être débarrassé des meurtriers, pas les affronter au corps à corps.
L'homme désigna les armes que Richard venait de montrer au Bandakar.
Mais ces objets...
Les soldats de l'ordre sont des assassins. Notre mission est de les exécuter, pas de les affronter à la loyale. Si nous les combattons, nous risquons d'être blessés ou tués. Je ne dis pas que nous devrons systématiquement les éviter, mais notre but n'est pas de leur livrer bataille. En certaines occasions, nous les attaquerons lorsqu'ils seront peu nombreux et ne s'attendront pas à des ennuis. N'oubliez jamais que ces brutes vous pensent incapables de résister. Nous tenterons de les prendre par surprise, sans leur laisser le temps de dégainer une arme. Notre but étant de les tuer, nous ne chercherons ni l'héroïsme ni la gloire. Il faudra frapper pendant qu'ils dorment, quand ils regardent ailleurs, au moment où ils mangent, lorsqu'ils bavardent, boivent ou vont faire une petite promenade. Ce sont des démons. Nous voulons les éliminer et rien d'autre ne compte.
Seigneur Hall,
gémit Owen,
si nous les frappons ainsi, ils se vengeront sur les otages qu'ils détiennent déjà.
Richard regarda les Bandakar jusqu'à ce qu'ils soient sûrs d'avoir toute leur attention.
Voilà, vous avez enfin compris qu'ils sont le mal incarné?
Tu as raison, Owen. Ils tueront des otages pour vous obliger à vous rendre.
Mais ils en exécutent déjà.
Au fil du temps, si on les laisse faire, ils passeront à des massacres à grande échelle. Plus vite nous les abattrons et plus tôt les horreurs cesseront. Des innocents mourront à cause de nous, mais nous en sauverons des milliers.
En revanche, si nous ne faisons rien, personne n'échappera au désastre. Comme je l'ai dit souvent, on ne négocie pas avec le mal. La seule solution, c'est de le détruire.
Seigneur Hall,
dit un résistant,
certains membres de notre peuple se sont ralliés à l'ordre. Ils croient aux mensonges de l'empereur et ils refuseront que nous fassions du mal à ses soldats.
Richard eut un profond soupir. Tournant la tête, il regarda un moment dans le vide, puis braqua de nouveau les yeux sur les Bandakar.
J'ai dû abattre des gens que je connaissais depuis toujours et qui s'étaient alliés à l'ordre. Ayant gobé les mensonges de l'ennemi, ils ont tenté de me tuer parce que je voulais continuer le combat. Prendre la vie d'une personne qu'on connaît est une expérience terrible, mais j'affirme que le contraire n'est pas mieux.
Le contraire?
Se laisser égorger comme un agneau. C'est ce qui arrive quand on veut épargner d'anciens amis. On y perd la vie et on cesse d'aider les gens qu'on aime. Si certains des vôtres se sont joints à l'ordre ou sympathisent avec ces thèses, vous devrez les affronter un jour ou l'autre.
et ce sera vous ou eux, tout simplement. L'équation est simple parce que nous ne pouvons pas permettre que des traîtres nous empêchent d'éradiquer le mal. Cet élément doit entrer en compte dans votre réflexion. Si vous vous joignez à l'Empire d'Aran, il vous faudra peut-être un jour tuer des gens que vous connaissez. Avant de choisir, pensez-y bien.
Les Bandakar ne semblaient plus choqués par la façon de parler très directe du seigneur Hal. Ils l'écoutaient, grave et concentré. Kalan vit de petits oiseaux volter autour d'eux à la recherche d'un endroit où se percher pour la nuit. Le brouillard et le ciel s'assombrissaient. Sondant les nuages, l'inquisitrice n'aperçut pas l'ombre d'un coureur. Avec de si mauvaises conditions climatiques, il y avait peu de risques que les espions de Nicolas se montrent. De ce point de vue, le brouillard était une bénédiction. Richard semblait épuisé. À une telle altitude, respirer était difficile pour tout le monde. Pour lui, avec les effets du poison, ce devait être une torture. Il devait redescendre le plus vite possible avant qu'il soit vidé de ses forces.
« Je vous ai dit la vérité sans rien vous cacher, »
résuma Richard.
« Votre avenir ne dépend plus que de vous. »
Le sourcier demanda à Kara, Tom et Jensen de récupérer les armes qu'il venait de montrer au Bandakar. Puis, il posa une main sur l'épaule de Kalan et tendit un bras en direction de la forêt.
« Nous allons retourner dans notre camp en bas. Prenez votre décision. Si vous choisissez l'Empire d'Aran, venez nous rejoindre sous le couvert des arbres, où les coureurs ne pourront pas vous repérer quand le brouillard se lèvera. Ensemble, nous finirons de fabriquer les armes dont vous aurez besoin. Ceux qui ne voudront pas s'allier à moi devront se débrouiller seuls. Je ne compte pas rester longtemps dans ce camp. Si l'ordre impérial les capture, je veux être loin quand ils hurleront de douleur sous la torture, juste avant de trahir notre position.
« Seigneur Hal, »
demanda Owen désespéré,
« nous allons devoir choisir dès maintenant.
Je vous ai tout dit. Combien de temps pourront attendre ceux qu'on torture, qu'on viole et qu'on tue dans vos villes et vos villages? Si vous optez pour le camp de la vie, rejoignez-nous. Sinon, je vous souhaite de tout cœur bonne chance. Mais ne tentez pas de nous suivre, car je serai contraint de vous tuer. » J'ai été guide forestier, ne l'oubliez pas. Si quelqu'un essaie de me pister, je m'en apercevrai.
Un des hommes, celui qui avait le premier montré à Richard qu'il serrait deux cailloux dans son poing, s'écarta de ses compagnons et vint se camper devant Richard.
« Seigneur Hal, je me nomme Hanson, » dit-il, des larmes dans ses yeux bleus. « Je voulais que vous sachiez mon nom, simplement. » Hanson.
Je n'oublierai pas, Hanson.
Merci de m'avoir ouvert les yeux, Seigneur. J'ai toujours eu des idées semblables aux vôtres. Maintenant, je comprends pourquoi, et j'ai conscience qu'un épais brouillard m'aveuglait. Je ne veux plus vivre ainsi. Croire en des mots dépourvus de sens n'a pas d'intérêt, et je refuse que les soldats de l'ordre contrôlent ma vie. Mes parents ont été assassinés. Et j'ai vu le cadavre de mon père pendu à un poteau. Il n'avait jamais nui à personne, et il ne méritait pas une fin pareille. Ma sœur fait partie des otages. Je sais ce que ces hommes lui infligent, et ça m'empêche de dormir la nuit. Je veux me battre et tuer ces monstres. Il faut les réduire en bouillie pour les empêcher de faire du mal aux innocents. Seigneur, j'ai décidé de me joindre à vous et de lutter pour recouvrer ma liberté. « Je veux vivre comme je l'entends et je me battrai pour que ceux que j'aime en aient aussi le droit. »
Kalan fut très surprise d'entendre un Bandakar faire une telle déclaration, surtout avant d'avoir consulté ses compagnons. Tous avaient le regard rivé sur Hanson pendant qu'il parlait et il n'avait pas perdu une miette de son discours. Richard sourit et tapota l'épaule du jeune homme.
« Bienvenue dans l'Empire d'Aran, Hanson. » Ton assistance nous sera précieuse, n'en doute pas. »
Le sourcier désigna Kara, Jensen et Tom.
« Pour commencer, si tu aidais mes amis à rapporter les armes dans le camp ?»
Hanson hocha vigoureusement la tête. Les épaules larges, le cou musclé,
C'était un homme charmant, mais d'une puissance impressionnante. À la place de l'ordre, Kalad n'aurait pas aimé avoir un tel colosse pour ennemi. Hanson voulut d'abord soulager Kara de son fardeau, mais elle refusa obstinément. Ramassant le reste des armes, le Bandakar emboîta le pas à Tom. Jensen suivit le mouvement. Elle dut tirer sur la longe de Betty qui tenait absolument à rester avec Richard et Kalan. Les compagnons d'Hanson le regardèrent un moment, puis ils s'éloignèrent de la statue et commencèrent de débattre de leur décision. Avant de tourner les talons, Richard jeta un dernier coup d'œil à la statue de Kajarang. Quelque chose attira son attention.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Kalan.
« Tu vois cette inscription sur le socle, juste sous les pieds du sorcier ?»
L'inquisitrice savait qu'il n'y avait jusque-là rien eu de gravé à cet endroit, et pourtant il semblait bien que son mari ne se trompait pas. Elle le suivit alors qu'il approchait de la statue. L'inscription était apparue à l'endroit où la balise était écrasée contre le granit. Du sable restait accroché à la pierre, si peu croyable que ce fût, on aurait juré qu'il érodait le granit pour y graver des lettres. Cette inscription était nouvelle. Kalan en aurait mis sa tête à couper. Bien entendu, les mots étaient en haut-daran. Si elle ne pratiquait pas cette langue, l'inquisitrice était en mesure de la reconnaître. Dans le ciel, les nuages noirs semblaient de plus en plus tourmentés. Entre deux pics, très fugitivement, Kalan aperçut la vallée qui s'étendait au-delà du col. Le territoire de l'Empire Bandakar. Un paradis au niveau de la mer où il ferait agréablement chaud, mais qui grouillerait de soudards de l'ordre. Transi de froid, Kalan regretta que Richard n'ait pas l'excellente idée de lui passer un bras autour des épaules. Mais il étudiait l'inscription avec une intensité presque effrayante.
« Richard, qu'est-ce que ça dit ?»
Fasciné, le sorcier suivit du bout des doigts le contour des lettres miraculeusement apparues sur le socle.
« C'est la huitième leçon du sorcier, » souffla-t-il. « Talga Vasternich. »